Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous voir soudain si nombreux et nombreuses pour cette rencontre avec Rim Battal et Lorraine Malka sur le thème du corps des femmes. Quel programme! Ça préoccupe beaucoup de monde, le corps des femmes, on va le voir, et pas toujours pour les bonnes raisons. Rim Battal, vous êtes artiste, poétesse et journaliste, photographe aussi. Vous nous proposez un très très beau recueil de poèmes intitulé X et Excès aux éditions Le Castor Astral, et puis il y a également, on le verra tout à l'heure, une réédition, je crois, d'un autre de vos recueils, L'eau du bain, également aux éditions des Castors Astral. Et puis Lorraine Malka, mangeuse au pluriel, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Lorraine Malka, c'est un essai. Vous êtes également journaliste, auteur. Je crois que c'est votre troisième essai. Vous écrivez notamment pour le magazine Cosette. Donc la question, évidemment, la question des femmes, si tant est que ce soit une question, vous préoccupe tout particulièrement à travers ce magazine. Pour pouvoir entrer vraiment dans le vif du sujet, quel meilleur moyen que les textes, les mots, et en l'occurrence la poésie? Rim Battal, est-ce que vous pouvez nous lire un extrait? Vous serez suivi de Lorraine Malka.
Je sais pas, je réfléchis.
Bonsoir. Une fille facile. Je lappe, je suce, je hume, j'enfonce, j'écarte, j'allonge, je bouge, j'ondule, j'offre, je prends, je lèche, je respire, je sens, je suinte, je jute, j'échauffe, j'allume, j'effleure, je mouille, j'agenouille, je caresse, je touche, je regarde, je vois, je frôle, j'écoute, je repose, j'essouffle, j'allaite, je couine, je tape, je claque, j'accroche, je danse, je souffle, je soulève, je gifle, je borde, je chantonne, je vis. J'éjacule, je bruite, j'abonde, je retourne, je convoque, je révoque, je répare, j'attrape, je griffe, je gratte, je chatouille, je gratouille, je transpire, j'avale, je nourris, je bois, je pince, je griffe, je balance, je rougis, je souris, je soigne, je tourne, j'ouvre, je creuse, je crois, je fesse, je mords, je plisse, je gicle, j'empale, je malaxe, je pétris, je brûle, je calcine, j'inscris, j'entre les lignes, je crie, je hurle, je réveille tout le voisinage, je rêve, je fonds, mais je n'embrasse pas avec la langue. Tu m'as dit, tu fais quoi au juste? J'ai dit, je fais des herbiers et parfois des quatre quarts de manière compulsive, des tartes jamais assez cuites. Je ne cuisine pas, ou alors je cuisine la totalité du contenu du frigo. Je ne vis pas que par moi, je ne vis pas que pour moi. Je me déplace, je nous traverse, sans armure ni cordon de sécurité, sans technostructure. Je ne m'ennuie jamais. Je fonctionne à plein régime. Il faut que tu me décharges. Il faut que tu me fasses à manger en plus de l'amour. Que tu t'occupes de mes dettes et que, si tu le peux, m'offres des fleurs, que tu me donnes un lieu pour les cueillir. Un pays, par exemple. C'est ça que j'ai dit. Tu m'as dit, est-ce que tu suces?
Est-ce que tu suces, sucer, picorer, lécher, invitez-les à lécher, mais surtout, veillez à bien leur interdire de manger. Qu'arriverait-il dans ce cas précis? Dans mon livre « Mangeuse », je pose la question à Thomas d'Aquin, puisque c'est à lui que l'on doit l'un des livres les plus célèbres de l'histoire sur les péchés capitaux. Imaginons-le sur ce plateau, micro en main, visage à moitié caché sous la capuche de sa robe de bure. « Les femmes, dirait-il en marquant une pause, l'air de dire qu'elles n'y sont pour rien. ne laissent s'épanouir leur raison que très rarement, à cause de la nature imparfaite de leur corps. Dans la plupart des cas, elles sont gouvernées par leurs émotions et non par leur raison. Je cite vraiment Thomas d'Aquin. En Grèce, 10 siècles avant Thomas d'Aquin, la femme apparaît déjà comme une créature vorace, sensuelle et paresseuse. Son appétit menace l'humanité. Pandore, première femme de la mythologie grecque, est un ventre, une gastère en grec, un estomac de chienne caché dans un corps gracieux. Elle épuise l'énergie des hommes et vide leur garde-manger. Après Pandore, les figures féminines affamées de la mythologie se révèlent tout aussi menaçantes, que ce soit par leurs appétits insatiables ou par ceux qu'elles suscitent chez les hommes qu'elles convoitent. Certaines leur préparent des banquets empoisonnés, d'autres les engloutissent. Dans la Bible, Ève incarne elle aussi la femme passive, dévorante et désastreuse. Pourquoi a-t-elle goûté le fruit défendu ? Et surtout, pourquoi l'a-t-elle offert à Adam ? Est-elle faible ou est-elle coupable ? Inconséquente ou maléfique ? Thomas d'Aquin tranche la question. Elle n'est pas perfide. Ève est un être passif, limité dans son accès à la raison. Elle a fauté, oui, mais par excès d'émotion, non par malveillance. En cherchant à offrir des circonstances atténuantes à la première femme, Thomas d'Aquin alourdit la peine de toutes celles qui lui succèdent. Non seulement Ève est gourmande, sensuelle et orgueilleuse, mais en plus, sa nature débile la rend indigne de porter la responsabilité de ses actes. Le théologien, piètre défenseur de la cause féminine, signe ainsi un verdict définitif de leur rapport aux aliments. Les femmes seront gourmandes, incontrôlables, dangereuses. Charge aux hommes de chapitrer ces insensés et de leur retirer les doigts du pot de confiture. Car pareil à des enfants, elles ne seront jamais capables de s'en prémunir elles-mêmes.
Et votre livre est plein de ces florilèges absolument délicieux, si j'ose dire, parce que l'histoire ne nous a pas épargné, Lorraine Malka, dès qu'il s'agit de plaisir. Et quel plus grand plaisir, à part le sexe et la nourriture. Évidemment, il s'avère que le problème est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Parce qu'on le retrouve, vous l'avez cité, chez Thomas d'Aquin, mais on le retrouve dans la littérature, on le retrouve dans la philosophie, on le retrouve évidemment dans la religion, à tous les étages, d'une certaine manière. Moi, je voulais savoir, quel a été l'élément déclencheur, déjà, pour revenir aux origines de ce livre, Mangeuse ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller chercher le détail, les raisons qui font qu'on a un rapport aussi compliqué avec la nourriture, toutes les femmes, même celles parfois qui disent ne pas avoir un rapport compliqué à la nourriture, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en réalité, c'est plus complexe qu'il n'y paraît.
Merci Marie-Madeleine. Bonsoir tout le monde. Alors effectivement, j'ai moi-même un rapport vraiment très important à la nourriture, dans le sens où j'adore, j'ai un rapport intense, je peux dire, à la nourriture. J'aime manger, j'aime cuisiner, j'aime bichonner les gens à travers cet acte-là de cuisiner et puis de manger avec eux. C'est vraiment, pour moi, c'est central. Ça dit aussi beaucoup, je trouve, d'une personne, d'un couple, d'une culture, d'une civilisation. C'est vraiment un prisme à travers lequel on peut comprendre beaucoup de choses. Et j'ai voulu, pour ce livre, interroger des femmes et des jeunes filles de différents âges et milieux sociaux sur leur rapport à la nourriture. Donc j'ai posé une question assez ouverte en leur demandant quel est votre rapport joyeux, convivial et plus tourmenté. Et j'ai remarqué à travers cette enquête que les femmes avaient très souvent ce rapport justement intense et coupable vis-à-vis de la nourriture. Et je soupçonnais très fort que ça n'était pas récent, que ça n'était pas aussi récent que ce que l'on croyait, et que ça n'était pas lié qu'à un rapport à la forme corporelle et à la minceur, comme on le croit souvent, mais que l'histoire de cette culpabilité-là était plus ancienne et qu'elle était liée, comme vous le disiez, aux appétits en général, aux désirs des femmes et à une oppression sur leurs désirs de façon plus générale.
Mais d'ailleurs, c'est ce dont on se rend compte quand on vous écoute toutes les deux, l'une après l'autre, lire vos textes qui, en apparence, sont si différents et en réalité tellement communs l'un avec l'autre. La sémantique de la nourriture et celle du désir, de la sexualité, sont quasiment les mêmes, n'est-ce pas, Rimbatal ?
Alors déjà, je me suis rendu compte que je parlais de nourriture dans mes textes le moment où je les ai envoyés à Lorraine Malka avant la rencontre. En effet, ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est justement cet appétit-là, c'est le désir qui porte vers, que ce soit vers la nourriture ou le corps de l'autre. Et en effet, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'on a toutes un rapport compliqué à la nourriture. Moi, j'en ai parlé justement dans ces textes-là qui parlent principalement de sexualité, parce que c'est un livre qui parle de pornographie en ligne d'abord. Et puis dans sa deuxième partie intitulée « De rien bébé », on passe l'écran et puis on parle vraiment d'amour, de romantisme contemporain et de sexualité. D'amour et de recherche, d'attente de l'amour et tout. J'ai oublié encore une fois le fil de ce que j'ai l'histoire de ma vie.
Non, mais on parlait de la similarité des mots, de la sémantique, de ce que exprime le désir corporel, qu'il soit à travers la nourriture ou à travers la sexualité.
Oui, justement, suis retrouvée à parler de nourriture pour parler de sexualité, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on a le même rapport qui se situe au niveau de l'élan, au moment où on va vers l'un ou vers l'autre. C'est ce que j'appelle désir, en fait, mais c'est cette fin-là qui est très commune aux deux. À cet endroit-là que se situe peut-être le nœud dont Lorraine Malka parlera beaucoup mieux que moi. Mais c'est ça, quoi. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on a de l'appétit ou pas? Si on n'a pas d'appétit, on est... moi, j'ai toujours été traitée de maigre, meuf qui ne veut pas manger, on me soupçonne de vouloir garder la ligne ou d'être anorexique, etc. Mais parce que j'ai un rapport compliqué à la nourriture, mais qui n'est pas là-dedans. En fait, mon rapport compliqué, il se situe au niveau de la cuisine à la base. C'est quelque chose que j'ai fui pendant longtemps parce qu'on m'obligeait à apprendre à cuisiner pour...
C'est assimilé à l'asservissement.
Exactement, c'est ça. C'est pour, mais si tu veux que tu trouves quelqu'un qui va t'aimer un jour, un homme, évidemment, un mari, eh bien, il faut que tu saches cuisiner. Et donc, j'ai tellement rejeté le fait d'être obligée de cuisiner que je n'avais plus envie de manger au final.
Justement, Lorraine, je me demandais la question de... Alors oui, il y a une fois qu'on a dit que la sexualité et la nourriture ont des similarités évidemment très fortes, et puis évidemment il est toujours question du corps, qu'est-ce qu'on craint chez la femme gourmande? Quelle est la conclusion que vous avez pu tirer à travers votre enquête et la réflexion aussi? Parce qu'il y a à la fois des témoignages, et comme nous l'avons vu avec votre texte tout à l'heure, aussi toute une enquête historique et littéraire. Qu'est-ce que l'on craint chez la femme gourmande, au-delà du sexe encore? Qu'est-ce qu'on craint?
Ce que j'ai repéré vraiment de façon très très ancienne dans la mythologie que j'ai retracée, qui en fait qui remonte à l'Antiquité, qui passe par la Bible, mais qui traverse après les siècles parce qu'elle est complètement impensée, et ce qui est impensé reste figé, immobile, et donc ça arrive jusqu'à la publicité aujourd'hui, jusqu'au cinéma où les hommes dévorent, gloutonnent à longueur de film alors que les femmes picorent, sucotent. Et ce que je trouve incroyable, c'est à quel point, en fait, effectivement, il y a ce qu'on peut repérer, c'est une façon de fantasmer et de redouter la femme qui mange et la femme qui a des appétits. Donc, dans mon texte que j'ai lu tout à l'heure, je parlais de Pandore. C'est vraiment exactement ça. C'est l'image de la femme qui est à la fois un fantasme, mais qui est redoutable parce qu'elle cache une gaster. Donc, elle est merveilleusement belle, mais elle cache cette gaster qui va vider les hommes de leur provision alimentaire et de leur énergie sexuelle. Et
c'est l'anti-Gargantua, d'une certaine manière.
Voilà, exactement. C'est l'anti-Gargantua. Pardon, je réagis aussi à ce que disait Rim, mais ce que je trouve assez fascinant, c'est que je pense qu'il y a un... Et c'est pour ça que vraiment les poétesses et les écrivaines et les romancières me fascinent et que je les cite beaucoup dans mon livre. Il y a un inconscient, en fait, et ça m'étonne pas, Rim, que tu dises que tu n'avais pas forcément repéré, alors que moi, je lis Rim depuis longtemps et j'avais vu cette métaphore de dévoration, cette métaphore qui est extrêmement présente, l'aspect vraiment figure féminine vorace est très très présente, je crois, dans ta poésie.
Ça m'est complètement passé au-dessus de la tête. Mais c'est pour ça que j'aime bien aussi ce type de rencontre. Moi, ça me permet aussi de rencontrer ce que j'ai écrit, des fois, à travers le regard, les lectures des autres personnes. Mais pour rebondir aussi sur la question de l'appétit, si on le rapporte à l'appétit sexuel, je pense qu'on a juste peur de ne pas pouvoir la satisfaire, d'être dépassé, de ne pas être à la hauteur, en fait, et d'être donc diminué dans ce qu'on est, dans sa capacité. Donc, on ne va pas aller sur la virilité, des choses aussi basiques. Nous sommes des personnes évoluées. Mais c'est un peu ça. Je pense qu'il y a quelque chose, un mélange de tout cela qui effraie dans l'appétit des femmes.
Et puis peut-être aussi parce que c'est l'expression d'une forme de prise de pouvoir. C'est-à-dire que la femme qui n'a pas peur de sa sexualité et de sa faim peut avoir faim de tout, de pouvoir, d'argent, de découverte, de liberté, n'est-ce pas ?
Oui, c'est vraiment l'image de, encore une fois, hein, on en revient à Pandore, à Ève. Pour moi, ça n'a pas bougé et c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui. Quand je disais qu'il y avait des rebonds avec la publicité, le CSA a déploré récemment le fait que les hommes soient toujours dans les publicités alimentaires en position d'expertise, là où les femmes sont en position de consommatrices et hypersexualisées dans leur façon de
consommer, manger les yaourts,
voilà, de manger les yaourts exactement, ou le chocolat, ça ou les cônes glacés,
c'est le yaourt au bifidus, hein, pas n'importe lequel, voilà. C'est 0% de gras,
évidemment, c'est ça qui donne de l'orgasme, c'est pas...
Oui, en revanche, je voudrais juste apporter un contrepoint, je ne sais pas comment l'appeler. Moi, je suis originaire du Maroc, enfin, je suis marocaine. Et là-bas, la maigreur, en fait, elle n'est pas du tout valorisée, en fait. C'est vraiment une femme, une vraie femme, c'est une femme qui est bien en chair, qui a des rondeurs, etc. Et en fonction des régions aussi du Maroc, par exemple, dans le sud... sud-sud du Maroc, plus une femme est grosse, en fait, plus elle est belle, plus elle est désirée, plus... Et donc, l'appétit des femmes, dans ce cas-là, est valorisé, en fait. Une femme qui mange, on la regarde, on la désire, on projette d'autres envies, j'imagine, sur elle, mais aussi, on l'imagine aussi porter plusieurs enfants, avoir le corps qu'il faut pour pouvoir allaiter, nourrir de nombreux... Enfin, une grosse progéniture.
Mais alors, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, il y a deux mots qui m'ont frappé, c'est projette, c'est-à-dire les gens projettent une fois de plus, et puis évidemment porter les enfants. Lorraine, là en fait, c'est très bien qu'on valorise une femme qui a envie de manger, mais en réalité c'est aussi une injonction à manger. Donc une nouvelle fois, le curseur il est posé par des facteurs extérieurs.
Moi, effectivement, ce que j'ai repéré dans mon enquête par rapport à vraiment ce sujet de la minceur, qui est un des leviers, hein, pour moi, des injonctions sur la façon dont les femmes doivent ou ne doivent pas manger et ce qu'elles doivent manger et dans quelle quantité, c'est qu'il y a cette minceur dans l'ensemble de la silhouette qui est attendue des femmes, mais être grosse sur les parties du corps qui sont valorisées comme étant celles qui sont sexualisées, qui sont érotisées, donc les fesses, les seins, qui sont perçus comme étant voilà, signalés qu'on est procréativement valable, quoi. Et donc il y a vraiment cet attendu qui en fait est assez présent dans de très nombreuses civilisations et à travers les siècles aussi.
Rim, dans X et XF, vous l'avez dit tout à l'heure, toute la première partie, c'est le regard d'une femme sur la pornographie, sur les sites internet, et donc vous passez par différentes descriptions, mais aussi par différentes projections. D'abord, quelle est l'origine de ce projet en particulier ? Qu'est-ce qui a été, même question pour Lorraine, l'élément déclencheur ?
Alors, l'élément déclencheur, c'est que je me suis rendu compte à un moment que, à partir du moment, dès que je commençais à je regardais du porno depuis longtemps, mais dès que je commençais à écrire, en fait, à travailler, je commençais à, enfin, procrastiner en regardant encore des vidéos porno, mais même d'une manière un peu compulsive, en fait. Et puis la première fois, deuxième, troisième, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible. Il y a un lien avec l'écriture. Eh ben, autant écrire là-dessus. Donc je l'ai commencé au départ vraiment pour essayer de comprendre quelque chose. Et petit à petit, j'ai décidé d'en faire un vrai objet, de travailler les textes un peu mieux. Et puis petit à petit, ce désir d'en faire un livre, parce que ça a commencé à être un livre, m'a poussé aussi à orienter un peu ce que je regardais pour nourrir le texte initial. Mais oui, un lien avec l'écriture, c'est ça qui m'a...
C'est une manière de se réapproprier aussi, justement, parce qu'on dit toujours que la pornographie, évidemment, avilit le corps des femmes, etc., etc., mais il y a aussi le regard de la femme sur la pornographie, et là, on est encore dans une démarche différente.
Je ne comprends pas la question.
la question, c'est... On dit que la pornographie avilit le corps des femmes, et pourtant les femmes regardent la pornographie, ce qui veut dire que une fois que c'est vu à travers le regard d'une femme, est-ce que ça prend une dimension différente ?
Alors pour ce texte-là, et dans ce texte, je me suis rendu compte au fil du travail je posais un regard très féministe et militant presque, qu'à un moment j'ai essayé de désamorcer quand même. En revanche, en tant que personne qui en regarde, je me suis rendu compte, en discutant avec des copines, c'est qu'on a plein de petites stratégies pour justement pouvoir en jouir sans ressentir justement cette humiliation par procuration, en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui regardent du porno gay, en fait, qui regardent des hommes avoir des rapports sexuels, parce que comme il n'y a pas de femme qui est impliquées, donc elles se sentent pas impliquées directement, et puis c'est des rapports qui sont différents aussi. Il y a aussi le fait que parfois on se projette dans le corps de l'homme, en fait, qui est en train d'avoir un rapport avec cette femme, donc c'est très étrange, en fait, à regarder. Et puis il y a d'autres femmes qui essayent de trouver du porno éthique. J'avais essayé il y a quelques années, mais c'était vraiment pas possible.
Très ennuyeux. Quoi.
Oh mon Dieu, mais c'était vraiment du porno pour les bébés, quoi. Enfin non, c'était... Non, c'est très propre, quoi. Mais est-ce que ça a vocation à être propre, en fait, le porno et même la sexualité de manière générale, enfin, à partir du moment où toutes les personnes impliquées sont consentantes. Mais ouais, cette volonté de faire un porno ultra lisse, trop gentil et tout, finalement, c'est pas très intéressant. Mais plus tard, il y a eu d'autres réalisatrices. Aujourd'hui, je tombe parfois sur des trucs qui sont intéressants, mais il faut les chercher, quoi. Mais ça commence à être plus... plus kinky.
L'écriture de la poésie, me semble-t-il, plus que la prose, a quelque chose de, justement, de charnel. Je l'imagine, je ne suis pas poétesse et je vous laisserai me répondre, je l'imagine comme une écriture qui se réalise, qui se fait plus avec du souffle, avec de la respiration, avec voilà, le corps plus impliqué. Est-ce que je me trompe ?
Comme j'ai pas énormément écrit dans d'autres genres littéraires, mais ça va venir. je ne connais vraiment bien que la poésie, et jusque-là, j'irai assez dans votre sens pour deux raisons. D'abord, c'est que dans la poésie, on n'a pas forcément le filtre ou la distance de la fiction, la narration, etc. On n'a pas une histoire forcément à raconter. On peut faire de la poésie narrative, mais il y a un rapport qui est plus direct à soi, en fait, dans ce rapport au langage. Et la deuxième, c'est que on est de plus en plus dans une poésie qui ne se limite pas au livre et qui s'étend à la lecture publique, à la performance et à l'oralité. Et donc, personnellement, et donc, enfin, plusieurs personnes que je connais, je ne vais pas parler à la place des autres, je retire ce que je viens de dire. Mais donc, quand j'écris, je pense de plus en plus à la lecture, à ce que ça va donner quand je vais le mettre en bouche, quand je vais sortir tous ces sons par la bouche, quand je serai debout avec mon corps face au public, ou alors quand je vais performer mes textes au bordel de la poésie. Donc, il y a un cabaret littéraire où on fait les lectures en tête-à-tête. Costumés. Donc c'est un rapport qui est encore une fois autre à la poésie et à la littérature.
Lorraine, sur la question, on parlait tout à l'heure du curseur par rapport à la grosseur, la minceur, etc. Vous parlez à un moment donné dans votre livre du backlash, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où la minceur est devenue une sorte d'émancipation du corps féminin qui s'émancipe justement du côté maternel, désirant, etc. Et puis qu'est-ce qui s'est passé en fait? On s'est pris un retour de bâton en fait.
Oui, alors c'est un mécanisme assez, enfin, que Suzanne Faludi a repéré. Suzanne Faludi, c'est l'autrice du livre Backlash, qui est assez fréquent dans le féminisme. Mais effectivement, le premier backlash de l'histoire, c'est celui-là. C'est le retournement, la récupération de la minceur, la maigreur, qui n'était pas du tout quelque chose de féminin, de perçu comme féminin pendant très longtemps, et qui d'un coup s'est mis à devenir une sorte de revendication féministe, en fait. C'est vraiment, ça a été l'une des premières revendications féministes, c'était pour aller travailler, de se débarrasser des jupons, des corsets, de tout ce qui nous encombrait, et donc de maigrir, et comme dit Georges Vigarello, qui est historien des silhouettes, de faire concurrence à l'esthétique de la mobilité, de faire concurrence aux hommes dans l'esthétique de la mobilité, donc pour sortir, pour aller travailler, et donc de maigrir et de n'avoir plus de traces de rondeur molle, comme on dit, qui étaient historiquement perçues comme féminines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ça a été un tel élan qui a tellement marché, si j'ose dire, financièrement, que le capitalisme en a fait son miel et a retourné, a récupéré la chose en nous vendant des tonnes de régimes, de fitness, a industrialisé le système. Quoi.
Mais alors, à vous entendre, je me dis qu'en fait, quoi qu'on fasse, quoi qu'on choisisse comme formule, on va dire, le corps des femmes est, quoi qu'il arrive, colonisé d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que ce soit par le capitalisme, que ce soit par le désir masculin. C'est quoi l'issue? C'est l'écriture? C'est quoi?
En tout cas... Moi, là où je suis vraiment contente de rencontrer Rime, c'est que y a dans mon livre tout un chapitre que je consacre à l'écriture culinaire. Je sais que les personnes, je ne sais pas du tout si c'est votre cas, mais les personnes qui voient le féminisme de loin et qui parfois le critiquent, c'est le cas de personnes que je connais, ont toujours l'impression que le féminisme n'est qu'une complainte, le fait de repérer des injonctions historiques. Effectivement, il y a de ça. Et c'est quelque chose de très important pour déconstruire les choses et pour repérer des mécaniques à l'œuvre et pour les articuler entre elles. C'est important de créer du savoir et de créer un savoir collectif là-dessus, de déconstruire l'histoire. En revanche, il y a aussi quelque chose qui, me semble-t-il, je pense que tu te reconnais là-dedans, Rime, c'est vraiment, comme tu disais, des stratégies qui sont, qui passent par l'écriture notamment et par la poésie. Et par l'humour, et qui sont en fait des façons qu'on trouve dans cette société. Par exemple, effectivement, au moment où on regarde un porno hyper humiliant, on trouve des façons de le réinventer à notre façon, même y compris mentalement. Ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par la réappropriation, par un retournement des choses qu'on opère en fait par nous-mêmes, parce qu'il faut bien qu'on vive dans ce monde et qu'en attendant que de réussir à renverser la table du patriarcat, ce qui pour le moment n'a pas lieu, il faut qu'on se réapproprie quand même nos désirs de façon au moins quotidienne, au moins un peu en fait. Et je pense que ça passe effectivement par l'écriture, par la poésie, par l'humour, par le retournement de la langue comme tu le fais dans tes poèmes. Enfin, moi, je trouve
Rime,
ça très...
vous êtes d'accord avec ce que dit Lorraine?
Oui, et par le retournement des rapports de pouvoir même au sein du couple, le rapport à la nourriture aussi. Il faut je sais pas, j'ai pas de baguette magique ou de recette idéale certainement, mais je pense qu'à un moment, il faut juste décider qu'on a le pouvoir, en fait, et voir ce qui se passe en face. On va sans doute se prendre quelques tartes et quelques rafales, mais il faut juste tenir et l'affirmer. Et peut-être que ça va s'auto-réaliser, je ne sais pas, mais en tout cas, au départ, moi, à travers mes textes, ma poésie, je n'avais pas de volonté particulière de prise de pouvoir ni quoi que ce soit, en fait. Mais j'avais juste envie d'écrire de la poésie. J'avais envie de travailler avec les mots, avec la syntaxe, avec leur musique. Et puis, petit à petit, ce qui sortait en termes de thématique ressemblait à ce que moi, je ressentais, où je vivais, où j'avais comme expérience de vie avec le corps que j'ai, qui est un corps de femme racisé ici en France, parce qu'au Maroc, je ne savais même pas ce que c'était. Et du coup, ça a donné ce que ça a donné. Et c'est ensuite, justement, à travers les rencontres, les retours que j'ai eus, les lectures critiques, je travaille pas mal avec dans les milieux scolaires, je donne des ateliers, des rencontres, et les retours et les questions des ados sont assez géniales à chaque fois, et qui m'ont permis de me rendre compte aussi que il y a quelque chose à pousser, en fait, dans ce sens, et qu'il y avait deux, trois choses à un peu exagérer, peut-être, parce qu'il fallait qu'elles existent, qu'il fallait que ce discours-là existe, ce discours d'affirmation de soi, de ses désirs, d'envie, de volonté, d'envie d'amour, d'envie du corps de l'autre et tout. Je trouve ça intéressant.
Oui, Lorraine. Moi, je trouve ça impressionnant. Enfin, dans le texte que Rim a lu tout à l'heure, vous avez tous et toutes réagi. Il y a quelque chose de... Enfin, il y a une femme très, très désirante qui est vraiment hyper sujette de ses désirs et c'est radical. Et il y a quelque chose là-dedans qui surprend, en fait, immédiatement. Et puis, ça se termine par... Il lui a répondu, est-ce que tu suces ? Enfin, je pense que... Et vous avez rigolé. Enfin, il y a quelque chose... Il y a un humour et une radicalité... qui, en fait, ça paraît dingue que ça nous surprenne, mais ça... Voilà, et pour moi, c'est ça le retournement dont je parle.
Oui, vous voulez dire quelque chose ?
Non, je veux dire, j'essaye aussi d'opérer ces petits retournements dans la poésie, mais toujours avec un peu d'humour et toujours beaucoup de tendresse. Parce que je trouve que c'est important, la tendresse. Le fait de... Enfin, la tendresse est un pouvoir, en fait. C'est une façon de prendre le pouvoir que de décider qu'on est tendre, qu'on va être tendre avec l'autre, qu'on va lui parler avec tendresse.
On désamorce la violence.
Et après, moi, tout ce qu'on me dit, c'est que ma poésie est crue et violente. Mais moi, pour moi, c'est hyper tendre que d'écrire ça, en fait.
J'ai une question. Moi, je me demandais si tu lisais de la théorie féministe ou est-ce que pas du tout. Enfin, est-ce que, parce que je trouve que tes textes peuvent très bien vraiment illustrer, en fait, des réflexions féministes. Et je me demandais si tu en absorbais toi-même. Est-ce que tu en lis, toi ?
Je dirais pas que j'en absorbe. En fait, j'ai lu de la théorie féministe très tard. Pendant longtemps, je vis en France depuis 10 ans, quand je suis arrivée, j'avais vraiment la tête ailleurs. J'étais juste en train de me battre pour trouver un rendez-vous pour renouveler mon titre de séjour tous les ans, donc je lisais que du roman parce que j'avais envie de fuir un peu de ma réalité plutôt que de la prendre à bras le corps. Et c'est beaucoup plus tard, un moment d'apaisement, quand j'ai commencé à avoir des enfants, etc., que là j'ai eu envie de trouver des outils, en fait, d'aller chercher des outils pour défendre ce que je défendais, pour défendre ce que j'étais déjà, et puis m'aider à me déconstruire un peu plus, à évoluer à titre personnel. Et c'est là que j'ai commencé à lire de la théorie féministe. Et à chaque fois, je suis tombée des nues en me disant, mais c'est incroyable. Enfin, ces femmes ont trouvé les mots exacts pour dire tout ce que je ressens depuis tout ce temps. C'est fou de ne pas l'avoir vu comme ça, de ne pas avoir été capable de le formuler moi-même. Mais bon, c'est pour ça que c'est important de lire et de la théorie et de la poésie et du théâtre, comme disait la camarade Stéphanie Vauvoir tout à l'heure. Parce que c'est des genres littéraires qui se nourrissent les uns des autres.
Lorraine, au-delà de la théorie en elle-même, il y a le roman, et vous citez des autrices dans votre livre où, pas toujours de façon explicite, mais implicite, à travers justement le rapport à la nourriture ou le refus de la nourriture, les écrivaines racontent quelque chose du rapport féminin à cet objet qu'est la nourriture, qui peut être à la fois source de joie, mais aussi d'asservissement. Il y en a beaucoup dans votre livre.
Oui, bah la première, en fait, là où vraiment il y a une façon féministe de s'approprier cette question-là, c'est vraiment au moment de la première vague féministe, Colette, qui est la première à vraiment parler de nourriture, écrire sur la nourriture, mais de façon... En fait, j'ai trouvé ça incroyable de réaliser à quel point le nombre de couvertures de magazines sur Colette Gourmande, alors que si on regarde en détail ses textes, alors oui, elle parle beaucoup de nourriture, elle adore cuisiner, mais elle écrit des chroniques culinaires pour le magazine Vogue, dans lesquelles elle dit très clairement qu'elle ne mange pas. Donc, et qu'elle ne cuisine que des choses qui ne se mangent pas, des étoiles, du ciel, de la sorcellerie, des choses... Et qu'elle ne veut surtout pas devenir comme les adipeuses rédactrices en chef de Vogue et grossir, donc elle préfère boire de l'eau pétillante. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment... Et elle écrit, par contre, elle écrit les recettes de façon très créative, et je pense que ça n'est pas un hasard.
Oui, c'est-à-dire que la réappropriation, elle se fait à travers la littérature culinaire, et elle n'est pas la seule, hein, à raconter la nourriture avec délectation. Nombreuses sont les écrivaines qui, à défaut d'en manger, racontent avec beaucoup de gourmandise.
Voilà, exactement. C'est vraiment... j'ai essayé de dessiner dans ce chapitre dont je parle un peu les contours de ce que pourrait être une écriture culinaire féminine, mais dont les hommes peuvent s'emparer. Hein. Je dis que Proust est une femme en ce sens, parce qu'il a un rapport... Enfin, il était à plein de moments de sa vie, il était anorexique. Donc, c'est un rapport à la cuisine qui est de l'ordre du fantasme, en fait. Et que, personnellement, je repère dans l'œuvre de Rime. Et juste, je signale, mais je pense que c'est pas un hasard qu'on vienne toutes les deux d'une culture méditerranéenne où la nourriture est très importante et où, tu le disais au tout début de la rencontre, on est élevé dans cette notion de la femme doit faire à manger à l'homme. Donc, c'est vraiment... Le rapport des femmes à la nourriture, c'est à titre de cuisinière ou de servir la nourriture pour que les hommes aient un ventre bien plein, mais pas
c'est ça, en fait, c'est vraiment, je pense, le premier lieu où on nous dépossède de notre appétit. C'est que tu ne fais pas manger pour toi, pas avec appétit, c'est pour l'autre. Enfin, c'est pour un mari éventuel et puis pour les enfants, pour les nourrir, qu'ils soient en bonne santé, etc. Et c'est assez hallucinant ce que ça peut faire comme dégâts par la suite.
Ben, je pense que ça fait des dégâts, mais ça fait aussi un rapport au féminisme. Enfin, je ne sais pas, mais quand tu parlais de ta découverte des théories féministes, moi, j'ai un peu le même ressenti. C'est-à-dire que, ayant un père marocain et n'ayant pas du tout grandi dans un milieu féministe, j'ai vraiment découvert ça par moi-même, après l'avoir observé, mais de façon très inconsciente et non verbale et non verbalisable, en fait, dans mon enfance. Et donc, j'ai écarquillé les yeux, en fait, à partir du moment où j'ai découvert tout ça. Et je pense que ça joue beaucoup aussi dans le fait de... dans nos écritures, dans différents sens.
Je propose qu'on écoute encore du texte. Rime.
Je commence.
Oui, et vous serez suivi par Lorraine.
Tu m'as dit, les cris sauvages et les mots doux ne disent rien de la réciprocité des intentions. J'ai dit, tu veux que je te suce ? Je te suce. On ne saura jamais si je veux te sucer ou juste faire plaisir. Un 4/4 aurait sans doute fait le job, mais je gobe sans moufter parce que flemme de nettoyer le four et que la levure chimique tente à manquer. Je te suce ? Tu ne me suces pas. Trop peu pour toi les poils entre les dents. C'est ton chat qui récolte les caresses, alors que ma fourrure est au moins aussi douce et que, contrairement à lui, je ne peux pas me lécher moi-même. Mais tu m'as offert l'ordi dernier cri et c'est pas mal pratique, j'avoue. Tu m'as dit, ça va ? Tu m'as dit, t'as joui ? J'ai pensé, pas du tout. J'ai dit, oui, oui. Tu m'as dit, merci pour ce moment. J'ai dit, De rien, bébé. Tu m'as dit, on se revoit quand ? J'ai pensé, plus jamais. J'ai dit, je dois vérifier mon agenda. Tu m'as dit, c'était vraiment super. J'ai pensé, je devrais te faire payer, tiens. Et j'ai dit, je t'enverrai la facture. Tu as rigolé, j'ai rigolé. J'ai dit, je dois rentrer. Tu m'as dit, je te raccompagne. J'ai dit, non, t'inquiète. Tu m'as dit, ok. Et je suis sortie. J'ai marché dans la nuit, je m'en suis roulée une. Il faisait moins 5, il était minuit moins 5. Et malgré mon corps plein de lui-même, mon corps dans son jus, plein de ces fardeaux dont tu n'as pas su m'alléger, j'ai pensé, je suis libre. Et j'ai dit à voix haute, je suis libre. Et je suis allée boire un dernier coup aux Trois Maillets. Je m'y suis faite flaque, j'ai dansé sur une table, montré ma culotte, chanté. Je m'y suis répandue de la manière la plus extrême qui soit. J'ai étalé une joie radicale et prosélyte. Je me suis donnée en spectacle pour ne pas être regardée vraiment. On m'a payé des coups, on m'a payé des frites. J'ai pensé, voilà, on est quitte. Et je me suis dit, le masculin l'on portera pas au paradis.
Le masculin et le féminin. Femme de plaisir, homme de plaisir. Que signifie le mot plaisir dans notre langue ? Il vient du verbe latin placere, qui signifie convenir, agréer, et l'équivalent du verbe actuel plaire. C'est au XIVe siècle que plaisir acquiert son sens moderne de sensation ou émotion agréable liée à l'exercice harmonieux des activités vitales, je cite le Robert. Au XIVe siècle apparaît une différence cruciale pour ce livre entre plaisir féminin et plaisir masculin. Le langage courant distingue l'homme de plaisir, c'est-à-dire l'homme qui se prête à des parties de plaisir, de la femme de plaisir, c'est-à-dire la courtisane ou la prostituée qui marchande son plaisir. En termes linguistiques, la différence entre homme de plaisir et femme de plaisir se loge dans la discrète particule « de », qui est ici une préposition génitive. Ce génitif est subjectif dans le cas masculin, c'est le plaisir que l'homme ressent, et objectif dans le cas féminin, c'est le plaisir que l'on tire de la femme. L'homme est sujet de plaisir, la femme est objet de plaisir. J'aimerais croire que cette nuance ultra discrète de la langue française ne dit rien sur l'organisation de notre société. Que l'homme et la femme de chair et d'os vivent, contrairement aux personnages de ces deux expressions, du même côté de la barrière génitive qui permet à tout le monde de se considérer tantôt sujet, tantôt objet de plaisir. Mais dans le domaine culinaire, comme dans tout ce qui se rapporte au corps et au sens, cette structure narrative se révèle aussi puissante qu'un script informatique. Alors comment sortir du script imposé par la langue, par les mythes et par l'histoire ? La femme de plaisir, dévouée au plaisir des autres, peut-elle se lever, franchir les barrières génitives et les trames narratives qui tissent son corps de l'intérieur pour devenir une femme de plaisir, sujette de ses propres sens ?
Merci beaucoup, Lorraine. Erin. En vous écoutant, je me disais que la prise de pouvoir, c'est aussi une question d'angle de vue. On l'a vu tout à l'heure avec l'humour que vous évoquez et qu'on a entendu dans votre texte, Rime, le fait de pouvoir rire, d'avoir son propre regard sur une situation, la manière dont on va choisir aussi le plaisir à travers la nourriture ou pas, de s'en affranchir ou pas, va faire que finalement on s'affranchit du regard de l'autre à travers la manière dont on va se regarder soi-même dans les mêmes situations. Je pensais au problème d'anorexie et de boulimie, par exemple. À la fois, c'est une maladie et en même temps, c'est une tentative de la femme de reprendre le pouvoir. N'est-ce pas ?
C'est le, le, c'est l'hypothèse que j'émets dans Mangeuse à la fin de mon livre. Enfin, mon livre commence et se termine par les TCA, les troubles des conduites alimentaires, parce que c'est vraiment pour moi le cœur du sujet. Et tout y mène, tout ce que je raconte sur cette fabrique de la culpabilité des femmes vis-à-vis de la nourriture mène à cela. Et en effet, j'émets l'hypothèse d'une forme de résistance. C'est le philosophe Michel Foucault qui parle de cette notion de résistance qui, moi, m'a vraiment... Enfin, j'ai trouvé ça saisissant comme notion. La résistance ultra discrète qu'on peut développer face aux choses qui ne sont pas des grandes actions épiques, qui sont parfois des tout petits actes qu'on fait dans nos coins, qui sont parfois complètement autodestructeurs et qui servent à rien en fait, mais qui nous permettent de résister à notre façon à des injonctions qui sont intenables, incompréhensibles et auxquelles on ne veut pas adhérer. Et pour moi, l'anorexie, en tout cas dans tout ce que j'ai pu lire, comme je me suis vraiment basée beaucoup sur les récits d'écrivaines, parce qu'il y en a énormément. Il y a vraiment énormément d'écrivaines.
Vous évoquez notamment, je crois, Virginia Woolf.
Virginia Woolf. Alors, elle a écrit là-dessus de façon assez discrète. C'est son mari qui a beaucoup raconté qu'elle était anorexique, mais elle a écrit là-dessus. Quand on a les lunettes comme moi de la mangeuse, on repère ces passages-là. Je cite des écrivaines anorexiques qui se racontent. Il y en a beaucoup, quoi. C'est vraiment... J'ai l'impression que, en fait, chaque écrivaine a, à un moment, un avatar dans son œuvre de femme anorexique. C'est impressionnant. Et effectivement, c'est ce que j'ai repéré, c'est cette forme de résistance. Comme dit Geneviève Brisac dans un de ses livres, c'est une façon de s'exclure de la chaîne alimentaire. Et c'est aussi Annie Ernaux qui raconte ça, qui dit que en devenant boulimique / anorexique, puisque c'est toujours les deux facettes d'une même pathologie, elle s'excluait de la communauté des filles, mais filles au sens vraiment appartenir à cette féminité, cette définition de la féminité qu'on refuse en fait.
Je vous vois acquiescer, Rim, ça vous parle ce que dit Lorraine? Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit ?
J'apprends. Ah. Je suis fascinée par cette hypothèse-là, parce que ça fait sens là comme ça, et ça me renvoie aussi à des témoignages que j'ai pu avoir, de discussions avec des copines, des amis, etc. Et c'est cette. Et donc je comprends tout à fait qu'on puisse parler d'un mode de résistance, même ridicule, même autodestructeur. J'ai connu beaucoup de femmes ou même de jeunes filles, d'adolescentes qui étaient avec moi dans mon lycée, etc., et plus tard, et qui, après avoir subi des agressions sexuelles, ou parce qu'elles ne supportaient pas le regard dans la rue, le harcèlement, etc. de rue, qu'elles se sont mises justement soit à manger, soit à s'amaigrir parce que, et c'est en fonction de ce qu'on leur dit en fait, de ce qu'elles reçoivent. Si on loue leur forme, etc., elles se mettent à plus manger, et l'inverse, si on loue leur fine taille, leur taille de guêpe, on disait à l'époque au Maroc, je sais même pas pourquoi d'ailleurs.
Ça revient à la mode, la taille de guêpe aussi.
Oui, c'est vraiment ne plus manger pour ne plus être mangé, en fait. Il y a de ça. C'est aussi, on sait que cette maladie développe aussi le fait des aménorrhées, le fait de ne plus avoir ses règles, de ne plus avoir de seins, et donc de devenir asexué et d'être dans une forme de transcendance par rapport au corps aussi, de dépasser son corps, ne plus en être, de ne plus pouvoir être comestible.
Et de l'autre côté, la boulimie, qui est une sorte de refuge aussi, d'anesthésie. Hein.
Oui, et voilà, c'est vraiment deux maladies du déni, en fait, où on nie l'appétit, soit on nie la satiété. Et c'est vraiment les deux revers de la même...
Vous disiez tout à l'heure de la nécessité, quand on parle de féminisme, de ne pas être uniquement soit la mortification, soit l'injonction, soit la dénonciation, mais aussi peut-être alors du coup dans la célébration. Et en écoutant les poèmes de Rim, je me disais que c'est aussi une manière de célébrer le corps féminin, tout simplement, de se dire l'émancipation passe aussi par la célébration du corps. Vous êtes d'accord avec ça ?
Évidemment, oui. Enfin, par la célébration du corps en le traitant bien, en le nourrissant bien, en l'habillant bien, selon ses propres goûts, en l'entretenant. Je sais pas. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'injonctions à être fit et se dépasser, courir tant de kilomètres, etc. Mais bon, si ça nous fait du bien, pourquoi pas. Enfin, je pense que. Et puis aussi le célébrer avec se le réapproprier, le célébrer en se le tatouant aussi. Enfin, je pense qu'on a, chaque personne trouve ses petites stratégies aussi pour se réhabiter de la meilleure manière possible, pour se sentir plus à l'aise dans son propre corps.
Mais on le célèbre aussi à travers l'écriture. Quand je vous écoute, c'est ce que vous faites.
On se le célèbre à travers l'écriture et à travers l'amour aussi.
mais mettre les mots qu'il faut sur des sensations, sur des émotions, quitte à passer par une forme de crudité, c'est le célébrer le corps, en fait. Appeler un chat, si j'ose dire.
Appeler un chat, c'est appeler un chat, un chat. Donc je sais même pas, j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal avec le terme cru en fait, parce que cru, c'est quoi cru quand on se réfère aux mots, au langage, ça veut dire quoi, et puis c'est toujours très subjectif en fait, un mot qui va être très cru pour moi, je sais pas si tu sais, je trouve pas ça cru, ni violent, ni quoi que ce soit, ni vulgaire, et même qu'est-ce que c'est que la vulgarité en fait, qu'est-ce qui est vulgaire, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est supposé être classe et élégant? Qui le définit aussi? Donc le fait d'assumer de dire des mots dits vulgaires par d'autres et de les intégrer en poésie, c'est aussi une manière de renverser le rapport de pouvoir et de se dire, en fait, si sur la poésie, c'est ce qui est censé être beau et je sais pas quoi, et moi je dis, tu me suces et chatte et gorge profonde et tout ça.
Oui, Lorraine.
C'est aussi une forme de... Il y a une forme de provocation. On peut parler de provocation.
Non. Pas d'accord. Non. Enfin, nous ne sommes pas d'accord.
J'aurais pas de provocation.
Je pense à ça parce que, en tout cas, il y a quelque chose de libérateur, je trouve, dans le fait d'être provocante et de ce qu'on appelle le retournement de stigmate, quoi. C'est-à-dire ce dont on nous soupçonne, le retourner et le revendiquer et l'affirmer de façon... provocante, au sens où on sait qu'on a intégré complètement l'idée que ça allait choquer, mais on l'assume et on le revendique. Et je pense que c'est ce qu'a... Enfin, en tout cas...
Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai aussi du mal avec le mot provocation aussi, en fait. Mais je dirais plutôt c'est la volonté de déranger. De déranger ce qui est rangé, en fait. Donc de mettre un petit peu de bazar comme ça pour permettre aux personnes qui vont lire de se déplacer différemment dans cet espace que j'offre, qui est mon texte. Mon texte, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Si vous l'achetez, vous l'assumez. Mais voilà, c'est plus de l'ordre de la proposition que de la provocation, en fait. En plus, je comprends même pas. Enfin, comment on peut être provoqué par de la poésie? Non? Si, vous êtes déjà senti provoqué par un texte?
C'est une histoire de sémantique. On peut appeler provocation le dérangement. Il y a des gens qui supportent plus ou moins d'être dérangés de la manière dont vous l'évoquez. Et dans ce cas-là, ça devient de la provocation.
C'est moins violent, en fait. Ouais. C'est moins frontal. C'est plus doux. C'est plus malicieux, quoi. Mmh. C'est un peu ce côté résistance discrète, en fait, que de déranger plutôt que de provoquer. Parce que provoquer, il faut d'abord, je vais dire des bêtises. J'arrête tout de suite.
Continuez, dit une dame.
Non, mais enfin, je sais pas. Je pense, et je peux être tort, qu'on provoque des personnes dont on a peur ou à qui on en veut, en fait. C'est genre comme provoquer en duel ou des choses comme ça avec le langage. Et moi, c'est l'autre ou même les hommes ne me font pas peur, en fait. Ils m'intriguent. Parfois, je les trouve un peu bêtes. Mais voilà, mais je les trouve pas effrayants et méchants, en fait. Je trouve que parfois ils sont un peu trop maladroits et malheureusement derrière il y a des lois qui les soutiennent, une société qui les soutient, etc. Et tout un système en fait qui leur permet d'agir avec inconséquence en fait. Mais ils sont pas effrayants. J'ai envie de les déranger, mais j'ai pas envie de les provoquer. Ils vont souffrir si je les provoque.
Tu dis exactement ce que dit Thomas d'Aquin par rapport aux femmes. Ils sont pas malveillants, ils sont juste inconséquents.
rime d'Aquin pour vous servir ce soir.
Mon Dieu, et ça risque d'être le mot de la fin en plus. Rime d'Aquin. Ben oui, ça va être le mot de la fin. Les hommes sont inconséquents, mais pardonnons-leur. Ils ne pensent pas à mal.
Ouais, mais faut qu'il fasse gaffe quand même.
Faut qu'il fasse. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut qu'il lise X et XS. C'est aux éditions du Castor Astral. Il faut lire Les Mangeuses, c'est absolument passionnant. Histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l'excès, de Lorraine Malka. Merci infiniment à toutes les deux et merci à vous d'avoir été avec nous.